Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, www.campusville.com. Comme chaque mercredi à 16h jusqu'à 16h30, vous retrouvez le magazine consacré à l'université Campus Lille Info. Un magazine qui vous plongera aujourd'hui dans l'univers de la spectroscopie en chimie. Et oui, nous allons parler donc d'un master européen qui s'intitule Advanced Spectroscopy in Chemistry. Donc, pour traiter de ce thème, nous avons invité M. Sylvain Christol, qui est donc professeur des universités à l'Université de Catalyse et de Chimie du Solide de l'Université Lille et directeur du groupement de recherche CNRS Catalyse, Réactivité de Surface et Rayonnement Synchrotron. Bonjour Monsieur Sylvain Christol.
Bonjour.
Voilà, donc on va parler de ce master européen qui est d'ailleurs labellisé Erasmus Mundus. Alors on va expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et puis le titre, hein, qui est un peu complexe, mais bon, il est en anglais, on va le traduire, Advanced Spectroscopy in Chemistry. Donc, on va dire la spectroscopie avancée en chimie, c'est à peu près ça?
C'est à peu près ça.
Voilà. Donc, un master qui, comme chaque master, hein, recrute après la licence, donc dès maintenant pour les masters, ceux qui veulent entrer en master 1, et orienté quand même spécifiquement recherche, ce master.
C'est un master qui est très orienté recherche, oui.
Donc on l'a bien compris, la spectrographie c'est une science, on va dire, on peut dire une science.
Hein. Oui, tout à fait.
Et donc qui nécessite à la fois des matériels sophistiqués et des gens compétents pour les utiliser.
Voilà, c'est ça. Et qui nécessite des savoirs, on va dire, en physique et en chimie.
Voilà, physique, chimie, les deux mots sont lancés. Alors c'est vrai qu'on peut déjà rappeler les cursus universitaires préalables, on va dire qu'une licence a priori à l'université, elle démarre en première année avec physique, chimie, un tronc commun, on va dire, et qu'après il y a des voies qui peuvent diverger et vous essayez de capter, fin de licence 3 donc, des personnes susceptibles de pouvoir s'intégrer à vos formations de pointe.
Voilà, c'est ça. Donc on recrute des étudiants qui ont soit une licence de chimie, une licence de physique-chimie, c'est sans doute le cursus le plus adapté à la formation, à notre formation par la suite. Mais on a aussi recruté des biochimistes ou des physiciens. Les biochimistes, il faut qu'ils se mettent un petit peu à la physique, et puis les physiciens, il faut qu'ils se mettent un peu à la chimie. Mais s'ils sont de bons étudiants, ça peut donner de très bons résultats.
Donc ces études, elles sont pratiques, elles sont aussi théoriques. Il y a beaucoup, on va dire, d'utilisation de matériel. Comment ça
Alors,
fonctionne?
Il y a beaucoup de théorie d'abord, mais dans chaque module de cours, on a inclus des travaux pratiques qui se font donc sur des appareils qui sont souvent dédiés à la recherche. Donc c'est une opportunité qu'ont pas forcément tous les étudiants. Donc ça c'est pour la première année. Et puis la deuxième année est quand même en très grande partie consacrée à un stage de recherche.
Est-ce que pour un étudiant qui est en fin de licence 3, donc physique-chimie, allez, par exemple. En gros, c'est quelque chose, une aventure qui va être complexe et compliquée, ou bien, a priori, il est déjà au départ formé pour ça?
Un étudiant qui est en licence 3 physique-chimie est au départ formé pour ça. Il n'y a pas de problème au niveau du bagage. Alors, je parle pour la licence physique-chimie de Lille 1 que je connais bien, mais j'imagine pour les autres licences de physique-chimie, c'est aussi le cas. Le bagage est tout à fait adapté à suivre cette formation-là. La seule chose, c'est comme c'est un programme international, ben tout est fait en anglais. Donc il y a effectivement un niveau d'anglais minimum qui est requis. Il faut être capable de pouvoir suivre les cours en anglais.
Voilà, et en plus, ce programme Erasmus Mundus prévoit que l'étudiant, donc en master, fera une année en France et une année dans un autre pays, et réciproquement d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Le réseau donc, Advanced Spectroscopy in Chemistry comporte cinq universités. Donc il y a l'université Lille 1, qui coordonne le réseau. Ensuite, on a l'université de Leipzig en Allemagne, l'université de Bologne en Italie, l'université de Cracovie en Pologne et l'université d'Helsinki en Finlande. Le programme est organisé de telle manière que tous les étudiants démarrent à l'université Lille 1 pour leur premier semestre, de manière à avoir un bagage commun, on va dire. Il peut y avoir une petite remise à niveau, et puis les fondamentaux de la spectroscopie sont rappelés au premier semestre à Lille 1. À la suite de ça, ils peuvent faire leur deuxième semestre, soit rester à Lille, soit partir à Leipzig. Et la deuxième année se fait dans une des cinq universités du réseau.
Alors, ces partenaires universitaires, comment ont-ils été, sinon sélectionnés, du moins, comment sont-ils assemblés ?
À vrai dire, c'est un petit peu le fruit du hasard. C'est-à-dire que l'université de Lille fait partie d'un réseau d'universités européennes qui s'appelle le réseau Utrecht, qui coordonne les échanges Erasmus classiques. On va dire, que tous les étudiants connaissent maintenant, quoi. Et il se trouve qu'il y a quelques années, donc ça remonte maintenant à 2006, je pense, quand ce programme de l'Union européenne Erasmus Mundus a été annoncé pour la première fois, il y a eu une réunion des responsables internationaux et puis des directeurs du FR de chimie du réseau Utrecht. Et bah, quelqu'un a proposé de monter quelque chose comme ça. Et puis bah, les 7 universités à l'époque, puisqu'il y en a 2 qui nous ont abandonnés depuis, ont décidé de se lancer dans l'aventure, quoi.
Donc je suppose qu'un des avantages d'être ensemble avec un programme Erasmus Mundus, c'est aussi un financement.
Alors le master existe en tant que tel sans financement, hein, c'est-à-dire que c'est un master de l'université de Lille, de même qu'un master de l'université de Leipzig, etc. Mais le fait de se mettre en réseau comme ça nous a permis donc de candidater au programme donc Erasmus Mundus de l'Union européenne, qui a vocation à c'est un programme de bourse, en fait, pour les étudiants internationaux, essentiellement. Il y a quelques bourses pour des étudiants européens aussi. Mais c'est un programme qui est destiné à financer les études d'étudiants internationaux en Europe. Voilà. Et donc, effectivement, on a obtenu donc un premier financement Erasmus Mundus en 2008, qui a duré 5 ans. Et là, on a recandidaté, puisque c'était fini, on a recandidaté là en 2015 et on a obtenu un nouveau financement de 4 ans.
Donc ces bourses ne concernent pas tous les étudiants ?
Ces bourses ne concernent pas nécessairement tous les étudiants. On a entre 15 et 20 bourses par an.
Pour les 5 universités ?
Voilà, c'est ça. Mais disons, quand on réfléchit à un master Erasmus Mundus, il faut réfléchir en termes de... C'est un master où les étudiants vont aller d'une université à l'autre. Donc il vaut mieux réfléchir en termes de master. Donc on a une quinzaine de bourses, ou une vingtaine, ça dépend des années, pour les étudiants qui veulent faire ce master.
Pour combien d'étudiants en général, l'ensemble du cursus, enfin du master ?
Alors, c'est assez variable. Ça va entre 15 et 30 par an.
D'accord.
Voilà.
Donc cette année, vous recrutez pour l'an prochain des étudiants.
Ouais, ouais.
Et vous savez déjà le nombre de personnes que vous allez intégrer ?
Alors, le nombre de personnes qu'on va intégrer, j'espère le plus possible. Le nombre de boursiers, nombre de bourses qu'on va pouvoir distribuer, c'est 18 cette année.
D'accord.
On n'est pas maître de ça. Ça, c'est l'Union européenne qui nous donne le financement. Donc cette année, on en a 18. Mais après... un étudiant lillois peut très bien faire sa première année à Lille et puis partir en mobilité en deuxième année dans une des universités partenaires avec un financement Erasmus classique, je dirais. Il y a d'autres possibilités de financement auprès de la région, etc. Donc on essaye de mettre tous les outils en main pour les étudiants non boursiers de manière à ce qu'ils puissent faire une mobilité qui se passe dans de bonnes conditions.
Donc dans la demande des étudiants qui voudraient intégrer ce master, est-ce que déjà il peut mentionner qu'il souhaiterait avoir une bourse ou bien ce n'est pas le moment ?
Si, c'est tout à fait le moment. C'est maintenant qu'il faut le dire. C'est-à-dire que là, peuvent se rendre éventuellement donc sur le site qui est master-asc.org. Et là, il y a un lien vers la candidature. Donc c'est une candidature qui se fait en ligne, où on va leur demander une lettre de motivation, des lettres de recommandation, bien évidemment leur relevé de notes, etc. etc. Et sur la base de ces documents, chaque candidat va être évalué par les 5 universités, en fait. Sur la base de cette évaluation, on fait un classement et puis on propose une bourse aux 15 premiers. Et puis après, en fonction des désistements, on descend dans la liste. Voilà. Donc,
je suppose que le document est en anglais.
Le document est en anglais, de toutes les façons. Le site est en anglais. C'est la condition pour arriver à attirer des étudiants internationaux, puisque c'est quand même le but de ce programme de l'Union européenne. C'est de faire venir de très bons étudiants internationaux en Europe. Donc c'est la condition pour faire venir des étudiants internationaux. Et puis c'est de toutes les façons une condition maintenant nécessaire pour faire de la recherche scientifique. Mmh. On peut éventuellement le regretter, mais c'est un fait.
Est-ce que ces étudiants doivent être européens ou ils peuvent venir d'ailleurs ?
Ah non, au contraire. On a beaucoup plus de bourses pour des étudiants non européens que pour des étudiants européens. Mmh. Sur la globalité du contrat qui nous lie avec l'Union européenne, on doit distribuer des bourses à 75% d'étudiants non européens.
Mmh, d'accord.
Sachant qu'un étudiant non européen se définit dans les critères de l'Union européenne comme quelqu'un qui n'a pas passé plus d'un an en Europe les 5 dernières années.
Même en Angleterre, ça marche.
Ça marche même en Angleterre.
Voilà. Donc on a bien compris que ce programme est ambitieux. Il vise à former plutôt des gens qui vont s'intégrer à des univers de recherche.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Donc des labos de recherche, et il y a souvent une partie non négligeable de votre population étudiante qui sera en doctorat après.
Oui, c'est ça. Là, on a fait récemment une petite statistique sur le devenir de nos étudiants. Et donc on a plus de 80% de nos anciens étudiants qui ont poursuivi en doctorat. Principalement dans des universités européennes, mais pas uniquement. On en a qui sont repartis dans leur pays d'origine ou en Amérique du Nord.
Voilà. Donc on peut dire que ce programme est ambitieux, que l'équipe des 5 universités, des 5 partenaires est particulièrement, porte un intérêt particulier à ce recrutement qui se fait en ce moment.
Qui se fait en ce moment, exactement. Donc j'invite les éventuels étudiants actuellement en L3, s'ils souhaitent le faire, à candidater rapidement. Parce que je veux, de souvenir, la date limite doit se situer au milieu du mois de mars. Mmh. Parce que... Ensuite, nous, on doit donc faire notre classement, faire notre sélection, renvoyer ça à l'Union européenne qui doit le valider. Et ensuite, on doit envoyer les lettres d'invitation aux étudiants et il faut qu'on les envoie relativement rapidement parce qu'il peut y avoir des problèmes de visa, il peut y avoir tout ça. Et voilà. Donc, il y a une première, on va dire, la première date limite, et là, je pense, le 15 mars, mais c'est indiqué sur le site internet dont je parlais tout à l'heure. Donc là, qui permet de candidater au master, mais aussi au programme de bourse. Et on fait un deuxième appel à candidature plus classique vers le mois de juin, pour une inscription au master, mais là, il n'y a plus de bourse en jeu.
Donc, on a compris que ce master était un master international, avec un public international, avec un financement, un programme, on va dire, européen, sur lequel il s'appuie en partie. Il y a donc des étudiants qui parlent anglais. Est-ce que les étudiants français ou d'origine française qui intègrent ce master sont aussi bons que les autres en anglais, par exemple ?
Oh. Peut-être pas aussi bon, mais honnêtement suffisamment bon la plupart. J'ai le souvenir d'il y a 2 ou 3 ans, une étudiante qui était venue me voir en me disant que vraiment le programme l'intéressait, que c'était ce qu'elle voulait faire, mais qu'elle avait peur de pas s'en sortir à cause de l'anglais. Et je l'ai vraiment incité à s'inscrire et à faire notre programme si c'était ce qu'elle voulait faire. Et elle s'en est très bien tirée, au prix, m'a-t-elle dit, de quelques migraines les 15 premiers jours. Mais au final, elle a eu son master assez brillamment et maintenant elle est... Elle n'a pas fait de doctorat. Maintenant, elle est ingénieure de recherche à l'École Polytechnique.
D'accord. Sinon, le niveau de langage en anglais, il est beaucoup axé, on va dire, sur la chimie et
oui,
la physique. Hein.
Oui, c'est ça. C'est de l'anglais scientifique et technique. Donc, c'est pas non plus... On n'est pas là pour faire de la littérature. Donc honnêtement, c'est pas... Je pense qu'avec un étudiant qui fait de l'anglais évidemment au lycée, et puis maintenant dans tous les cursus licence, il y a toujours un petit peu d'anglais chaque année, etc. Alors je me perds toujours un peu dans les certifications, la B1, C2, etc. Mais enfin, grosso modo, s'ils ont réussi à avoir les certifications qu'on leur demandait en licence, ils sont tout à fait capables de suivre ce cours-là.
Et en physique chimie, il y a, on va dire, une certification particulière pour un vocabulaire précis ou pas ?
Honnêtement, je pourrais pas vous répondre. Je connais pas bien les cours. Je sais qu'il y a des cours de langue tous les semestres, mais le contenu de ces cours de langue, je peux pas vous le dire. Tout ce que je peux dire, c'est que effectivement, les étudiants français qu'on a eus qui venaient de l'université de Lille ou d'autres universités françaises n'ont pas eu de problème particulier à s'intégrer. Il ne faut pas que ce soit... Je pense qu'il y a un message à faire passer, c'est qu'il ne faut pas que cet aspect anglais soit un frein, parce qu'en général, ça se passe très bien de ce côté-là.
D'accord. Donc, on a compris que ce sont des études longues qui sont envisagées. Au-delà de ça... On a dit aussi un labo de recherche en vue par la suite. Est-ce que ces labos de recherche, on va les retrouver aussi du fait des stages qui vont être faits en deuxième année de master ?
Exactement. Dans la deuxième année de master, alors vous savez qu'une année, c'est 60 crédits ECTS. Hein. Donc en première année, nous, on a 60 crédits qui sont 60 crédits de cours théoriques. Donc la première année est assez lourde, à vrai dire. Mais ça nous permet de libérer du temps pour la deuxième année. Et sur les 60 crédits de deuxième année, on en a 40 qui sont du stage. Donc une grosse partie de la deuxième année est en fait du stage dans un ou deux labos de recherche.
Donc on peut dire que l'avenir est assuré dès qu'on entre dans cette formation.
Je n'irai pas jusque là. Il faut quand même valider ces, il faut quand même valider ces crédits théoriques, ce qui me demande du travail. Mais disons que oui, je pense que si ça se passe bien. Alors en plus, on sélectionne un petit peu les étudiants. Bon, normalement, il n'y a pas de raté, quoi. Si ça se passe bien, normalement, ça doit pouvoir déboucher sur un doctorat. C'est le cas la plupart du temps.
Bon, on va voir les choses à plus long terme. Maintenant, on a parlé de l'entrée dans des labos de recherche. Est-ce qu'à très long terme, c'est un métier aussi qui est préparé et qui doit être... qui envisage aussi des évolutions intellectuelles, de connaissances, etc., de la part des personnes qui entrent dans ce type de formation. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut se remettre en cause tous les 2, 3, 4 ans pour acquérir de nouvelles connaissances ?
Alors, l'objet un petit peu de ce master, c'est justement de donner un bagage qui permet de suivre les évolutions des différentes techniques en spectroscopie, en fait. Si vous voulez, il y a un certain nombre de techniques qui sont bien établies, de spectroscopie, qui permettent donc de sonder la structure et les propriétés de la matière utilisant les méthodes spectroscopiques. L'objet du master, c'est vraiment de donner un petit peu le bagage qui permet de comprendre les évolutions, parce que c'est forcément un monde qui est en perpétuelle évolution. Donc normalement, si on réussit notre travail, nous en tant que coordinateur de ce réseau et d'enseignants, etc., les étudiants qui sont formés là devraient pouvoir suivre les évolutions techniques, moyennant forcément une remise à niveau, une remise en question régulière, ça c'est sûr.
Donc quand on parle de, je modifications, changements techniques. On est dans des technologies de pointe.
On est dans des technologies de pointe, oui.
Avec des outils qui évoluent, qui eux-mêmes ont leur propre génération.
Avec des outils qui vont de génération en génération, sont de plus en plus performants, de plus en plus précis, qui mettent en œuvre des technologies de plus en plus sophistiquées. Et il faut pouvoir tirer le meilleur parti. Nous, on ne forme pas des gens qui vont construire des nouvelles machines. On forme des gens qui vont pouvoir tirer le meilleur parti de la nouvelle machine qui est proposée sur le marché, on va dire, quoi. C'est ça l'objet.
D'accord. Et donc en termes de motivation, il y a une grande partie liée à la technicité de ces personnes, ou bien c'est plus un esprit aussi de créativité, d'inventivité? Comment on profite?
On peut voir les choses des deux côtés. Il y a le côté, il y a un côté qui peut être effectivement très pratique et très technologique. Hein. Et puis après, il y a l'autre côté qui est plus le mien, mais bon, qui est plus de se servir, d'utiliser ces méthodes-là pour aller sonder des propriétés très particulières de la matière et essayer de voir comment on peut remonter à des choses qu'on ne sait pas. Donc ça, je dirais que c'est le profil un petit peu, ça peut être un aspect recherche plus chimie, science de la matière, ou alors recherche plus technologie, quoi. Voilà, les deux sont couplés.
On a parlé des compétences. En termes de passion, comment vous voyez ce métier?
Vaste programme. En termes de passion, moi, j'allais dire, je fais ça depuis une vingtaine d'années, et si je coordonne ce master-là, c'est parce que j'y crois. Donc, non, en termes de passion, ça... Moi, je trouve que c'est passionnant. J'ai un certain nombre d'étudiants qui, effectivement, trouvent ça passionnant. Ceux qui n'ont pas trouvé ça passionnant ne me l'ont peut-être pas dit. Ça, je ne peux pas... Donc, en termes de... Enfin, moi, à mon avis, c'est un métier et des techniques qui sont vraiment passionnantes, parce qu'on peut utiliser des appareils qui sont extrêmement sophistiqués, aller voir des propriétés extrêmement fines. Mais c'est aussi, pour peut-être être un peu plus terre à terre, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement utilisé dans les laboratoires de recherche, mais aussi dans l'industrie chimique, dans tout un tas de domaines. On a des partenaires qui sont des partenaires industriels qui proposent des stages à nos étudiants. Donc c'est aussi dans tous les centres de recherche, dans toutes les entreprises, on va dire, qui font de la chimie, il y a ce type d'appareil qui est présent. Donc il peut y avoir de la passion d'un côté, mais il y a aussi après un aspect purement pratique.
Voilà, la passion et la raison.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que vous pensez que les étudiants français sont aussi passionnés, voire plus, que des étudiants internationaux ailleurs d'Europe, d'ailleurs?
Ah, c'est assez délicat de répondre à cette question, parce que... Alors, je sais pas que je veux pas répondre, mais...
Non,
c'est assez délicat, parce que si vous voulez, on des étudiants internationaux, pour vous faire la chose dans les grandes lignes, on reçoit entre 200 et 250 candidatures d'étudiants internationaux. Mm-hmm. On ne peut malheureusement offrir que 15 bourses, ou 20 dans le meilleur des cas. Malheureusement, ceux qui n'ont pas de bourse ne peuvent pas venir la plupart du temps, simplement pour des problèmes financiers. Donc forcément, ceux qu'on fait venir sont ceux dont vraiment la lettre de motivation, les notes, le CV nous ont vraiment tapé dans l'œil. Et donc vraiment, les étudiants internationaux qu'on fait venir sont vraiment souvent des étudiants de très 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 haut niveau. Mmh. Et extrêmement passionnés, puisqu'il faut quand même être passionné pour traverser la moitié du monde, pour aller faire un master en anglais, etc. Donc forcément, ceux-là ont, un petit plus, sans doute, ces étudiants internationaux qu'on reçoit. C'est pas pour dire que les étudiants français qu'on a sont pas bons, s'il y en a qui m'écoutent... S'il vous plaît.
On ne l'a pas dit.
Ceci dit, pour moduler un peu ce que j'ai dit, honnêtement, quand on fait la comparaison entre nos étudiants lillois qu'on a formés chez nous en France, les étudiants qui viennent de Leipzig, de Bologne, de Cracovie où la plupart des étudiants internationaux, honnêtement, on n'a pas à rougir de la qualité de nos étudiants. Même là.
Voilà, bah, je pense qu'on a un peu une idée précise maintenant de ce programme donc d'études qui s'intitule Master européen Advanced Spectroscopy in Chemistry. Merci donc Monsieur Sylvain Christol. On va rappeler quand même l'adresse pour aller chercher les informations et s'inscrire éventuellement.
Oui, alors c'est www.master-asc.org.
Merci et bonne chance pour votre prochaine, on va dire, vos prochaines recrues.
D'accord, mais je vous remercie. Merci
au
à
plaisir.
Vous.
Au plaisir. Au revoir.